Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Quand j'étais étudiant en journalisme, un de mes professeurs aimait nous répéter que le grand reportage était au coin de la rue. Eh bien, un album de musique, il peut aussi naître au coin de la rue, a fortiori quand l'artiste habite dans l'un des quartiers les plus cosmopolites de Paris, comme le 10e arrondissement, peuplé, dit-on, de quelque 70 communautés différentes. De cette mixité sociale hyper-locale, le compositeur Philippe Cohen-Solal, que l'on connaît notamment en tant que cofondateur du trio Gotan Project, a fait un album composite qui fleure bon les épices des restaurants indiens, la mousse à raser du barbier turc et l'huile de karité des coiffeurs afro. La série télé Beverly Hills était estampillée du code postal 90-210. Le nouvel album de Philippe Cohen-Solal s'appelle, lui, 75-010. Il est disponible chez Yabasta et vous m'en direz des nouvelles.
On a tous le même soleil, sans être né sous la même étoile. Un peu de chaleur, du pain, du rêve pour remettre l'espoir sur un piédestal. Ouvrons les yeux, regardons-nous droit dedans. Qu'enfin l'amour soit plus fort que les gens. Laissons nos palpitants s'agiter quand on croise des yeux pleins d'histoires dans les quartiers. Oublions l'air ainsi funeste qui au fil du temps nous abîme et nous ferait croire au destin fugace de ceux pour qui la haine subsiste. T'es mon soleil, je suis ton étoile. Quand vient la nuit, démasquons tous nos pétales. Aucun besoin de me dire d'où tu viens, suffit de voir ton sourire pour me dire que tout ira bien.
Philippe Cohen-Solal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Soleil étoile, c'est ce featuring avec Jody Coste qui ouvre ce nouvel album, un titre positif, un titre plein de lumière avec un peu de rythmes africains aussi. D'ailleurs, 75-010, le 10e arrondissement de Paris, c'est un des quartiers où l'Afrique est extrêmement présente.
Bah vraiment, dans la rue, il suffit de marcher dans la rue du Château d'Eau, par exemple, juste à côté de là où j'habite. Pour être entouré de coiffeurs africains avec une super ambiance, des gens qui rigolent, discutent, vendent des jus de gingembre. C'est, ouais, donc l'Afrique est très très présente avec toutes les différentes d'ailleurs nations africaines presque. Enfin, il y a vraiment de. Ouais, c'est vraiment. C'est particulièrement rue du Château d'Eau, je dirais.
Voilà, et cette chanteuse, rappeuse et comédienne franco-italo-congolaise Jody Coste insuffle donc une dimension africaine à ce premier titre. Vous pouvez nous en dire quelques mots de Jody Coste,
oui.
Sacré mélange déjà, finalement, ça peut être aussi une bonne figure de proue pour l'album.
Exactement, parce qu'elle est vraiment, c'est une jeune femme hyper positive, avec un discours en même temps politique, féministe, mais engagée, mais avec toujours un smile et toujours dans une vision très très positive de la vie. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment plu dans cette rencontre. Et c'était justement le morceau Soleil étoile, c'est toi, c'est moi, c'est nous.
Voilà, c'est un morceau qui rassemble, fédérateur, pourrait-on dire aujourd'hui.
Tout à fait.
Et très positif, comme vous le disiez. On a tous le même soleil sans être né sous la même étoile. Ce pourrait presque être le mantra de ce disque.
Complètement, complètement. Et c'est vrai que dans ce qui est bien dans ce quartier aussi, c'est que les gens se rencontrent et que ça cohabite de façon très, très pacifique et très agréable et sympa. Et tout le monde... Moi, ça fait très longtemps que j'habite dans ce quartier.
Ça fait combien de temps?
Oh, ça fait depuis 93.
Oui, bon, donc, quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà. Ça fait longtemps. Ah oui, bon, on va pas compter. Bon, chacun aura fait le calcul. Voilà. Pourquoi vous êtes installé à cet endroit précis, Philippe Cohen-Solal?
Parce que ça, d'abord, à l'époque, ça coûtait pas cher du tout. C'était le seul endroit à Paris où on pouvait trouver encore des grands espaces. Et pour un prix dérisoire.
Ça a
vraiment changé. Le prix du mètre carré a explosé.
Vous avez fait une bonne affaire, alors.
Bah, j'ai fait en plus une bonne affaire, oui, c'est vrai. Mais ça a été vraiment... Et puis j'ai aimé, en fait, ce côté, justement, d'aller dans les restos turcs et après chez mon barbier turc aussi, d'ailleurs, ou des Kurdes. Il y a beaucoup de Kurdes. Par exemple, un des artistes de l'album, je l'ai rencontré au centre du Kurdistan, au centre culturel. Donc, en fait, il n'y a pas juste une activité commerciale dans ce quartier, il y a une activité culturelle qui est très présente. Et quand on marche dans la rue, moi je suis rue Martel, mais il y a rue des Petites Écuries, où il y a le fameux New Morning, le studio bleu, et bien on marche dans la rue et on entend sortir des portes du New Morning dans l'après-midi des gens qui répètent, un groupe brésilien par exemple, ou africain, et puis on passe devant le studio bleu, qui est un studio de répétition à Paris assez connu des musiciens. Et là, on entend, de la batucada ou du tango ou du rock. Enfin, oui. Voilà, et c'est vrai. Et après, on passe devant un salon de thé kurde. Et là, on a la musique du Kurdistan. Enfin, c'est vraiment assez génial pour ça, je trouve.
Alors, c'est assez extraordinaire aussi, parce que c'est vrai que ça vous correspond parfaitement. Là, pour tout ce que vous venez de décrire, on a l'impression que c'est la vie de Philippe Cohen-Solal qui se retrouve dans la rue dans les rues du 10e arrondissement de Paris. Comment est né ce projet de disque autour de quelques rues, un quartier? C'est l'un des plus petits arrondissements de Paris. Pas le plus petit, mais un des plus petits, quand même.
Non, il est quand même assez... Enfin, ça va du... on va dire de Bonne Nouvelle, c'est-à-dire les grands boulevards, la porte de Saint-Denis, jusqu'à l'hôpital Saint-Louis, le canal Saint-Martin, tout ça c'est le 10e. Donc c'est pas si petit que ça, mais c'est comme des villages en fait. C'est que moi, vraiment, je sors assez peu de mon 10e arrondissement. Des fois, quand je vais dans un autre quartier, je me dis c'est quand même pas mal, le 6e, Saint-Germain-des-Prés, c'est quand même sympa. Tu vois. Mais en fait, je suis assez toujours content de retourner dans le 10e.
Mais de là à en faire un album, qu'est-ce qui vous a fait sauter le pas? C'est une idée qui vous trottait dans la tête depuis pas mal
de
temps?
J'ai une sorte de théorie bizarre, un peu fumeuse, sur les villes et la musique. C'est-à-dire que j'ai vraiment un rapport, pas seulement, parce qu'on parle toujours de musique et de la world music et des pays, parce que c'est de chaque pays, mais chaque ville a en fait une empreinte musicale et une sensation musicale. Par exemple, quand j'ai fait à l'époque Gotan Project, j'avais à cœur, et je l'ai fait tout de suite, même avant que l'album sorte, d'aller à Buenos Aires pour écouter les premiers morceaux qu'on avait déjà produits, pour l'écouter sur place et voir comment ça sonnait. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, je suis allé avec Eduardo, guitariste du groupe, et on est allé à Buenos Aires, c'était en 2000, donc c'était un an avant de sortir l'album. Et la première chose que j'ai fait, j'ai ouvert les chambres d'hôtel, j'ai mis la musique de Gotan Project, et j'ai ouvert et j'ai regardé la rue, et je me dis, non, ça va, c'est bon. Ça marche, ça le fait. Ça. C'est comme si, par exemple, tu, en tant que Parisien ou Français, on fait du reggae. Eh ben, moi, je conseillerais d'aller l'écouter en Jamaïque, son reggae, pour voir comment ça sonne là-bas. Et avant même Gotan, j'avais fait un truc qui s'appelle The Boys from Brazil, on n'était pas du tout brésilien, mais on s'appelait The Boys from Brazil, et on travaillait autour de la musique brésilienne avec des musiciens brésiliens. Et c'est de la musique house, électronique, tout ça. Et j'ai été ravi, quand j'étais au Brésil, de le jouer en DJ et de voir tout le monde qui kiffait le morceau, qui fait la musique.
Et donc là, pour 75-010, vous vous êtes contenté d'ouvrir la fenêtre, quoi?
Ouais, en fait, plus que ça, je suis sorti de mon studio et j'ai vraiment rencontré des gens un peu par hasard, souvent des hasards, par exemple, ou un peu forcé. Par exemple, quand j'allais chez mon barbier turc, je lui demandais, mais... Vous connaissez pas des chanteurs, des musiciens? Et puis au bout d'un moment, au bout de quelques mois, il m'a dit, tiens, lui qui est derrière, là, nous qui attend, c'est un rappeur, c'est un chanteur, rappeur turc. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert le duo Uzay qui est sur l'album. Et tout s'est fait un peu comme ça. Au centre de Kurdistan, j'ai rencontré Roushan Filistey, qui est un très, très excellent, magnifique chanteur et joueur de oud et de saz. Voilà, tout s'est fait un peu par des rencontres de hasard aussi, ou un peu que j'ai un peu cherché aussi, évidemment. Mais c'est vrai que C'est, en fait, pour répondre à votre question, en fait, l'idée est venue d'essayer de faire au lieu d'aller dans le monde entier, faire du field recording en Afrique, en Inde ou ailleurs, j'ai pas besoin. Il suffit d'aller dans le 10e arrondissement et de faire du field recording quasiment, de rencontrer les gens. Et on voyage et du coup, on réussit à faire un album avec une empreinte carbone zéro. Ekmek un, usta ocak başında hayal kur, hayal kur ve ona odaklan. Kim der no? Yıldızlar karanlıkta parlar ve kömürden elmas do, elmas do, elmas do. Annemin oluyuz, aşk meyvesiz, ailenin göz bebeğiz, evin direğiz biz. Başarılı iş adamıyız veya mütevazı pazarcıyız ama hepimiz hayat sanatçısıyız. Hepimiz geleneğiz, biz tarihi yazarız, ailenin demeliyiz, ilgili babasıyız ve aşk için feda ediyoruz. Biz kapıcıyız, tıpkı astronotuz, ama hepimiz hayat yolcusuyuz. Hepimiz kaderine yön verdi. Ekmek un, usta ocak başında hayal kur. Ve ona odaklan, kim der dur? Yıldızlar karanlıkta parlar ve kömürden elmas doğar, elmas doğar, elmas doğar. Karanlıkta düştük, hiç yılmadık, üşürdüm, bulmadım güneşin ışığını, vücudun ısısını. Düşmana eyvallah, yazdım ismini kenara, keser İçer, lidersem affetmem. Hayat bu, savaş varsa kimseyi affetmem. Söz verdim, kaderine yön verdim. Ekmek un, usta ocak başında hayal kur ve ona odaklan. Kim der dur? Yıldızlar karanlıkta parlar ve kömürden elmas doğar.
Le morceau s'appelle Elmas, il est signé de notre invité Philippe Coetzolal et des rappeurs turcs qu'on évoquait il y a un instant, Uzay. Elmas, c'est un mot turc,
Philippe? Oui, c'est-à-dire diamant.
Diamant en turc. Alors, je ne vous cache pas que ma connaissance du turc est très embryonnaire.
La mienne aussi. Hein.
Voilà, de quoi nous parle ce titre?
Alors, ça parle en fait de... C'est très poétique, en fait. Ça parle de la vie, de la préciosité de la vie, et qui est comme un diamant. En fait, c'est aussi une chanson d'amour. Hein. Et en fait, je les ai laissés complètement écrire le texte. Hein. Évidemment, je n'ai donné aucune input ou inspiration là-dessus. Je les ai vraiment laissés. Ouais. Je leur ai fait écouter
le backing.
Totale liberté. Je leur ai fait écouter le backing, qui est un truc assez un peu rétrofuturiste entre la musique vraiment électronique actuelle et la sarabande de Handel.
Effectivement, c'est presque un tube de la musique baroque. Hein, pour le coup, Philippe Coetzolal, je pense que même ceux qui ne sont pas des grands amateurs de musique classique auront reconnu effectivement le thème. Comment est-ce que vous avez fait la jonction entre Uzay, donc ces deux rappeurs turcs, et Handel? On se serait dit la marche turque de Mozart, c'était peut-être plus évident, quoi.
Ouais, mais là, peut-être là pour le
peut-être
coup,
trop évident.
Trop évident, exactement. Je sais pas, je travaille beaucoup par intuition, en fait. C'est-à-dire que ça fait un moment, et j'aime beaucoup, en fait, faire des allers-retours entre le présent et le passé, pour faire une musique nouvelle, que j'espère peut-être un peu du futur, si possible, et que ce que j'ai fait d'une certaine façon avec Gotan Project, avec une musique qui avait un siècle d'histoire. Le tango, c'est vraiment une musique très, très ancienne, on va dire. Et d'ailleurs, à l'époque, quand je le faisais, quand je faisais ça, tous mes potes, copains, DJ, ils me disaient, mais quand je leur disais que je faisais du tango, ils me disaient, mais ce tango, wow, c'est ringard, c'est un truc de vieux, ça. Et c'est pour ça que l'album s'appelait, le premier album s'appelait La Revancha del Tango. C'était une revanche sur l'ignorance que les gens pouvaient avoir du tango. Mais tout ça pour dire que c'est, en fait, j'aime beaucoup les allers-retours, ce qu'on peut dire aujourd'hui sous l'appellation rétro-futuriste. En fait, c'est j'aime ces trucs-là, j'aime voyager géographiquement, mais historiquement, et faire des ponts. Et surprendre les gens comme ça. Et je crois que c'est ça que j'aime bien, c'est surprendre.
Mais est-ce que vous parvenez à vous surprendre vous-même ?
Ah bah oui. D'abord, je suis le premier à me surprendre, parce que c'est pas toujours sûr que ça marche. C'est-à-dire qu'en musique, on peut essayer de forcer des trucs, c'est un peu comme en cuisine d'ailleurs. On peut essayer de mettre des ingrédients ensemble. Des fois, ça, chimiquement, ça ne marche pas. Et la musique, c'est pareil. Des fois, on essaye, on a une idée en tête, on l'essaye, et puis en fait, ça sonne pas du tout. C'est pas terrible, quoi.
Mais c'est vrai que mélanger l'autotune et la musique baroque, c'était quand même pas évident là. Pour le coup, c'est un vrai risque.
Mais j'aime les deux en fait. J'aime la musique, les voix auto-tunées. J'ai rien contre ça, au contraire. Même si on a beaucoup ouais, soupé quand même depuis quelques temps. Mais j'aime la musique baroque. Donc pourquoi ? Et puis
tout ça. C'est un mariage forcé ou c'est un mariage d'évidence ?
Pas du tout. C'est ce qui m'intéresse avant tout, c'est la mélodie en fait. Ce que j'aime, c'est la mélodie. D'ailleurs, ma société, mon label s'appelle Yabas Record, mais ma boîte s'appelle Science et Mélodie, parce que c'est ça que j'aime, la science comme la connaissance et la mélodie pour tout ce qui est, parce que la mélodie c'est extraordinaire en fait, c'est ce que j'aime faire le plus. Donc là, pour l'occurrence, c'est Handel qui a fait la mélodie et la barre est très très très haut, mais moi j'adore composer des mélodies, c'est ce que j'aime faire le plus peut-être.
Alors on va se plonger dans un autre projet, on va faire un petit détour par le Congo-Brazzaville, vous voyez l'Afrique n'est jamais très très loin de nous. Philippe Cohen-Solal, notre correspondant Fabien Essiane, a assisté il y a quelques jours à l'Institut français à une création qui elle aussi allie deux musiques différentes, la musique classique à la musique traditionnelle congolaise avec percussion et balafon. Reportage.
On se croirait dans un concert de musique classique si l'on ne se limite qu'à cette voix de soprano suave et si douce qui se fait entendre sur le podium de la salle de spectacle de l'Institut français de Brazzaville. Mais que non, nous sommes dans un mélange entre la musique traditionnelle africaine et le classique, un nouveau genre mis sur pied par un groupe de jeunes artistes congolais venus des deux rives du fleuve Congo, l'RDC et le Congo-Brazzaville. Maïs Batimba est leur tête de pont.
Un artiste, c'est quelqu'un qui crée. Nous sommes dans l'univers de la création. On veut montrer au monde entier que la musique traditionnelle peut se mélanger avec toutes les musiques. Il n'y a pas que la rumba au Congo, il y a aussi le jazz, il y a aussi la musique classique.
Et cette voix mélodieuse est de Lys Babindamana. Elle pratique la musique depuis son jeune âge, au point qu'en 2015, elle a même été finaliste des découvertes RFI.
À l'âge de 6 ans, j'ai dit « Papa, moi j'aimerais jouer à la guitare comme toi ». Il a dit « Tiens, c'est pas mauvais, vas-y, essaie ». Et j'ai essayé mes premières notes, ça avait marché. J'ai commencé mes débuts à la télévision congolaise. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des petits concours à l'âge de 14 ans.
Paul Sarah est l'organisatrice de ce spectacle qui a laissé tout le monde pantois.
C'était sublime. En tout cas, du début à la fin, on a eu un public qui a été scotché, un public qui a dansé et un public qui n'a pas voulu que le spectacle, que le concert s'arrête.
Une originalité dont s'en vante Héritier Mawaza, qui s'est fait appeler Kratos. Mais il reconnaît néanmoins la difficulté pour le public à accepter ce nouveau genre musical.
Il aurait fallu qu'on essaie d'imaginer quelque chose qui n'existe jamais au monde. C'est difficile pour nous déjà d'imposer ce style parce que de base, nous faisons du jazz.
Barbara Pamou est la directrice déléguée de l'Institut français de Brazzaville. C'est elle qui a découvert ces jeunes musiciens.
C'était important pour nous de montrer ça aux autres parce que nous, on a découvert ça entre nous. Lors d'une jam session après un événement à l'IFC, jam session totalement improvisée.
À l'écoute de cette musique, l'on se rend compte qu'il y a encore une possibilité de transmuer la musique traditionnelle en musique classique et même d'associer les deux. Le groupe Congo Jazz Quintet a donc inventé sa propre mélodie, un rythme qui est l'incarnation du modèle le plus achevé d'une totale assimilation d'un héritage culturel à la fois africain et occidental. La musique traditionnelle et classique deviennent dès lors une source d'inspiration et une œuvre de l'esprit.
Reportage de Fabien Essian à Brazzaville pour VMDN. Je vous ai senti très attentif, Philippe Coët-Solal. Comment est-ce que vous appréhendez une musique traditionnelle, ancrée dans un territoire et dans une histoire ?
D'abord avec respect.
Ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde, malheureusement.
Oui, oui, tout à fait. Bah, d'abord, respect pour la culture. C'est ça qui m'intéresse souvent. C'est aussi de voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette musique. Je suis vraiment curieux à chaque fois, de pas seulement d'écouter de nouvelles musiques, mais de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces musiques, même des fois les contextes historiques. Donc c'est vraiment important d'aborder ça comme de cette façon-là, bien sûr. Et il faut quand même un minimum quand même d'irrespect, on va dire, en tout cas de toupet, des fois, pour pouvoir justement faire des choses que la tradition parfois interdit de faire, ou la tradition, ou le... la communauté de cette musique va s'interdire elle-même de faire. Et ça, je pense que c'est ça qui est intéressant pour pouvoir essayer de créer des nouvelles rencontres, des nouvelles musiques. Là, pour ça, ce reportage était hyper intéressant, parce que ça parle justement de rencontres inédites, en fait, entre musique classique, le balafon, la musique africaine. Et c'est pas fait de façon, comment dire, commercial, dans le sens où on veut absolument faire un truc, un coup. Moi, c'est ça que je déteste, en réalité, c'est de faire des coups. C'est pas du tout mon truc. Et des fois, j'ai eu des gens qui sont venus pour essayer de me proposer des coups. Et ça, bon, maintenant que tu as fait le tango avec l'électro, tu fais pas le fado maintenant?
Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
J'adore le fado, mais... J'adore vraiment, mais je vais pas le faire comme ça, pas pour faire un coup. Je le ferai que s'il y a une rencontre, si je rencontre vraiment cette musique à travers, d'une façon ou d'une autre, avec une chanteuse, un chanteur, ou voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que les puristes en musique, c'est une aberration totale. C'est-à-dire, on peut pas être puriste en musique. C'est-à-dire, la musique, c'est un mélange. Toutes les musiques, tout le monde sait que le rock, le jazz, il y a rien de pur. Et la musique classique, pareil. Enfin, donc, soyons ouverts et intéressés par la rencontre aussi. C'est ça qui crée des nouveaux la musique de demain. C'est ça qui m'intéresse d'entendre et d'écouter. C'est une musique qui n'a pas été faite encore. C'est ça qui j'attends tout le temps. Alors j'essaye des fois ça marche, des fois ça marche pas. J'ai réussi une fois ou deux fois peut-être de faire des musiques que j'avais pas entendues avant, et ça je trouve ça génial. Enfin, pour moi l'accident industriel, je trouve ça incroyable. Mais on n'y arrive pas tous les jours. On peut pas, on se dit pas, tiens, je vais créer la musique de demain. Non, on fait de la musique et on voit. First time I fell into the sea, the taste of salt, the crash, the reverie, inspired by the reflection of the sun on the waves, where my senses misbehave. The taste of yeast, the mist, the clouds of flowers.
Homesick Melody, la musique de Philippe Cohen-Solal, les paroles et la voix de Sarah Maness dans VMDN sur RFI. Extrait de ce nouvel album 75-010 que vous sortez chez Yabasta, Philippe Cohen-Solal. Homesick Melody, c'est la musique du mal du pays, c'est le souvenir de la terre de la jeunesse, la terre des ancêtres. Et dans cette chanson, la voix exhorte justement cette mélodie à ne pas disparaître, à rester en quelque sorte chevillée au cœur. Vous la sentez, cette homesick mélodie, quand vous vous baladez dans les rues du 10e arrondissement de Paris ?
Mais complètement, parce que en fait, pourquoi quand on marche dans le 10e et qu'on traverse, on rencontre ces différents endroits avec des différentes communautés, qu'est-ce qu'on entend surtout, c'est ce qu'ils ont ramené de leur pays. C'est ça, c'est-à-dire quand on va passage Brady, qu'il y a tous les Indiens, Pakistanais, Bengalis qui sont là, qu'est-ce qu'ils nous offrent ? Ils nous offrent leur cuisine déjà, ou leurs produits de santé, ou leurs produits, ou les vêtements, comme ça. C'est ça qui nous amène. Et les Africains, ils nous apportent leur science, on va dire, de faire des tresses, parce que c'est vraiment ils sont très forts. Bon, moi, avec moi, ça marche pas terrible, parce que je suis...
Oui.
Si vous voyez, sous la casquette, j'ai pas assez de cheveux.
On a bien vu, voilà. Donc, vous allez plus chez le barbier que chez le coiffeur.
Mais en tout cas, oui, c'est ça. Ce qui nous amène, c'est un peu de leur nostalgie personnelle. Ils sont tous nostalgiques. Mon père était tunisien, juif tunisien, et ma mère hollandaise. Donc chez moi, ça baignait entre la musique arabe que mon père écoutait, ou le jazz, et puis ma mère écoutait plutôt du rock ou des trucs des fois hollandais, un peu bizarre. Donc en fait, chaque communauté, quand elle arrive dans un pays, d'abord elle se regroupe. Et le 10e arrondissement, c'est un peu un regroupement de communautés, de familles, voilà. Et chacun amène son pays avec soi, un peu de son pays. Et c'est ça qui est chouette, quoi, qui est beau.
Alors, on va faire un petit tour sur place, dans les rues du 10e arrondissement, grâce au micro de notre reporter Solène Gardret. Elle est partie sur vos traces, en quelque sorte, en s'immergeant dans quelques-uns des lieux dont l'esprit a irrigué votre album reportage.
Oui, on commence notre balade à la gare de l'Est. C'est une des deux gares du 10e arrondissement, avec la gare du Nord. 100 millions de voyageurs passent chaque année gare du Nord. Et ici, c'est quand même plus de 41 millions. Donc on sort sur le parvis de la gare et à gauche on aperçoit un ancien couvent. C'est le centre culturel des Récollets.
Bonjour, ça va ?
Bonjour.
Bah là vous êtes à l'accueil du centre des Récollets.
Ça c'est votre bureau ?
Ça
c'est mon bureau.
Bien marqué par 20 ans de présence.
Je suis Christelle Dosias. Et j'ai la chance de travailler sur ce lieu depuis 2001. Le patron de l'époque m'a dit, ben voilà, on a un projet, on va réhabiliter un ancien couvent pour en faire une résidence pour chercheurs et artistes, un peu sur le modèle de la Villa Médicis. Toutes les personnes qui vivent ici apprécient le fait d'être dans un poumon de Paris. Il y a les mouvements, la gare de l'Est, avec des flux. Chaque jour, incroyable de voyageurs, de passagers. Le canal Saint-Martin qui est devenu un spot incontournable pour toute la jeunesse parisienne. Donc on est vraiment, pour ces personnes étrangères qui viennent de toutes parts du monde, on peut dire qu'ici, ils sont tout de suite immergés dans la vie parisienne et française.
Là, on marche rue du Faubourg Saint-Martin et on arrive devant la mairie du 10e arrondissement. Merci beaucoup.
Moi, je suis Éric Algrin. Je suis le premier adjoint à la maire du 10e arrondissement. Ça fait assez longtemps que je suis élu dans le 10e arrondissement, puisque je suis en train de terminer le 3e mandat. C'est un arrondissement, le 10e, avec la concentration de Paris, qui est considéré de plus en plus comme un arrondissement central parisien. Il est extrêmement bien desservi par les transports en commun, notamment, dans lequel on n'a pas échappé, bien entendu, à la gentrification. Gentrification principalement, en fait, autour de ce qui le caractérise aujourd'hui le plus, c'est le canal Saint-Martin. Mais on a su garder quand même une diversité extrêmement importante, puisqu'on a près de 70 nationalités qui sont présentes dans cet arrondissement. Donc ça nous détermine encore comme un arrondissement extrêmement multiculturel.
On ressort de la mairie, on va prendre rue du Château d'Eau avec tous ces coiffeurs africains, antillais. On arrive rue du Faubourg Saint-Denis et là on va passer chez le coiffeur Gull.
Je m'appelle Mohamed, je suis barbier de Paris 10e.
Vous travaillez ici avec qui et depuis combien de temps ?
Avec mon frère et mon père. Ça fait presque 10 ans que je travaille ici. On a plein d'habitués. Les gens ils viennent tous les mois, on peut dire. Ouais.
Vous aimez bien votre travail ?
Oui, bien sûr. J'adore mon travail. C'est le travail de passion. C'est notre famille. C'était toujours un métier passionnant pour moi. C'est mon père qui nous a appris le métier.
Bah, merci beaucoup.
Bonne journée.
Au revoir. Et voilà, on finit notre balade au pied de la porte Saint-Denis. C'est un arc de triomphe qui date de 1672 et qui marque la fin du 10e arrondissement.
Reportage de Solène Gardré pour VMDN, vous les avez reconnus, quelques-uns des témoins là, que Solène a retrouvés.
C'est très émouvant pour moi de les entendre comme ça, je ne m'attendais pas du tout en fait, je suis agréablement surpris par ce reportage. D'abord parce que ça nous a replongé pour quelques instants dans ce quartier, mais aussi d'entendre les voix des gens qui m'ont beaucoup aidé en fait à faire cet album, à ce que cet album est devenu. Christelle Dozias, qui est une femme extraordinaire.
Qui travaille à la résidence des Récollets.
Voilà, et qui accueille des gens du monde entier, des artistes. D'ailleurs, dans l'album, il y a Sarah McCoy qui est à séjourné. Il y a la famille Ibrahimi, des réfugiés afghans qui ont fui les talibans de Kaboul de façon assez incroyable. Kezia Jones, c'est mon ami de longue date. Kezia Jones a résidé aussi au Récollets. Enfin voilà, cet endroit est absolument génial. De toute façon, c'est un îlot de culture et de création très très rare. Et puis il y a Gull. J'y vais toutes les semaines.
Le barbier toutes les semaines.
Ah oui, j'y vais une fois par semaine.
Ah oui, mais c'est quand même extraordinaire. C'est un petit luxe ça quand même de se payer un barbier.
C'est 10 euros.
C'est 10 euros. Ah bah oui, bon, on va pas trop faire de publicité. Hein, quand même, Philippe Cohen-Solène. Mais c'est vrai que c'est extraordinaire parce que c'est vraiment une rencontre a priori qui n'avait rien de musical et qui a pu déboucher avec les rappeurs qu'on évoquait et qu'on entendait tout à l'heure sur un vrai projet artistique.
Exactement, exactement. C'est ça qui est intéressant pour moi, ça a été d'aller. De laisser faire aussi le hasard. Hein. C'était bon, des fois j'ai forcé comme avec Gull en lui demandant toutes les semaines est-ce que vous connaissez pas quelqu'un, mais des fois c'est vraiment le hasard d'une rencontre qui fait que par exemple
Judith Chemla.
C'est
l'actrice
drôle, l'actrice qui est chanteuse lyrique aussi. En fait, c'est une. On a un enfant. On a tous les. Elle a une petite fille et moi j'ai un garçon qui a 9 ans. Qui sont dans la même école, rue Martel. Et donc c'est une mère de famille qui m'a dit. Mais tu sais, Judith Chemla, elle habite rue Martel, dans la même rue que toi. Et donc c'est comme ça que la rencontre s'est faite. Donc la chanson. Donc du coup, je me suis plus renseigné sur qui était Judith Chemla. Enfin, je connaissais un peu, bien sûr. Et en fait, j'ai vu tout ce qu'elle faisait par rapport à tout. Là, j'ai lu son livre qui est génial, d'ailleurs, qui s'appelle Notre silence nous a laissés seuls, et qui parle beaucoup des problèmes de violence conjugale aussi, et de problèmes avec, du coup, que ça peut avoir dans la famille. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit une chanson. J'ai été très touché par. En regardant son Instagram, par tous les posts qu'elle faisait pour soutenir ses mères qui n'avaient plus la garde de leur enfant. Et donc, ça m'a inspiré une chanson qui s'appelle « Dans la nuit », où ça parle... En surface, ça peut ressembler à une chanson d'amour, mais enfin, derrière, c'est une chanson d'amour d'abord pour son enfant et le fait de l'avoir, de ne plus le voir, par exemple.
Parmi les autres artistes célèbres que l'on croise aussi en featuring, comme on dit maintenant sur votre disque, il y a Charles-Élie Couture aussi. Ouais. Alors lui, c'est l'homme du quartier Gare de l'Est. Hein, il est déjà identifié à ce quartier-là.
Tout à fait, Gare de l'Est. Alors Charles-Élie Couture, c'est drôle parce qu'on s'était rencontrés il y a très longtemps. À l'époque, je faisais de la radio dans les années 80 et je l'avais interviewé. Et puis on s'était revus. Depuis quelques années, grâce à un ami commun qui est un galeriste d'art brut qui s'appelle Christian Berce, et on se retrouvait dans les vernissages. Et puis, il n'y a pas longtemps, donc dans le vernissage de cette galerie, je parlais avec Charles-Élie. Il me parlait de son 26e album qui vient de sortir là d'ailleurs.
Ouais. On en parlera bientôt sur RFI.
Ouais, qui est super d'ailleurs cet album. Et donc, je lui dis, mais t'habites où déjà ? Il me dit, bah, Gare de l'Est. Et je dis, bah, tu veux pas faire un morceau avec moi ? Parce que je raconte l'histoire de 75-010. Et donc, ça s'est fait de façon très fluide et simple. Je lui ai envoyé un backing, on dit, c'est-à-dire un instrumental que je venais de faire. Il a écrit des paroles dessus. Il m'a appelé quelques jours après en me disant, bah, viens écouter. Il me l'a fait comme ça, en direct, en live, comme ça. Et de chez lui, quoi. Et quelques jours après, il venait dans mon studio l'enregistrer. Ça me plaisait, et puis j'avais l'impression qu'il manquait une trompette. Bizarrement, j'imaginais une trompette. Et deux jours après, avant d'enregistrer Charlie Lee, je vais au New Morning, je vois un jeune groupe brésilien qui s'appelle Balada e Sejo, qui est un groupe de Rio, et je flash aussi sur le trompettiste. Et donc après le concert, je vais pour lui parler, je lui dis, c'était super là, tu fais quoi maintenant ? Ça ne te dirait pas de faire une petite séance de trompette ? Il était minuit. Hein.
Oui.
Il était minuit.
Sympa pour les voisins.
Voilà, c'est ça. Dans mon studio, il est bien sonorisé. Et donc, ça ne te dirait pas de faire une trompette ? Et il m'a dit, bah oui, bon, on prend une bière d'abord et on y va. Et jusqu'à 2h du matin, il a enregistré la trompette sur le morceau que j'avais fait avec Charlie Lee deux jours avant. Et j'ai mixé la semaine d'après. Et, ça a donné, ici c'est comme ça, qu'il y a un morceau que j'aime beaucoup et une belle rencontre.
Alors, il y a la trompette sur le disque et puis aussi du saz. C'est quoi le saz ?
Alors, le saz, c'est un instrument... c'est plutôt Rochane Felicia qui pourrait vraiment dire exactement d'où il vient, mais je pense que ça vient d'Anatolie, si je ne dis pas de bêtises. Mais peut-être les gens vont dire... En tout cas, c'est un instrument, c'est un peu comme le... D'une certaine façon, c'est pour les gens qui connaissent le oud. Alors, ce n'est pas exactement pareil, mais il y a plusieurs cordes et le manche est très, très long.
Une sorte de lutte, en fait.
C'est une sorte de lutte, exactement, long, ouais. Ouais, avec un manche très long. Et donc, c'est vrai que dans l'album, il y a du saz et il y a du oud aussi. Ouais.
Ouais, bien, on écoute. C'est le nom de ce morceau qui se trouve donc sur ce nouvel album 75-010, Philippe Cohen-Solal. C'est le morceau qui, moi, m'a peut-être le plus ému sur ce disque.
Ah ben c'est bon, c'est agréable à entendre. C'est un chanteur qui est très émouvant aussi. Sa voix, elle est vraiment.
Donnez-nous son nom.
Alors, il s'appelle Rushan Filistek. Et lui, j'ai rencontré. Donc, il habite juste à côté de rue, une rue parallèle de la mienne. Mais je l'ai rencontré par le Centre culturel du Kurdistan.
C'est un exilé kurde de Turquie.
Voilà, exactement.
Diyarbakir.
Qui chante et qui joue donc du loud, du saz. Alors du coup, je me suis enseigné pendant qu'il chantait.
Oui.
J'ai Wikipédié saz, voilà. Et en fait, donc pour savoir vraiment exactement ce qu'est le saz. Donc c'est un luth à manches longues rencontré en Iran, Irak, dans le Caucase, en Crimée, Turquie, Grèce et dans une partie des Balkans. Voilà, c'est vraiment un instrument qui a rayonné quand même dans une région assez importante, enfin assez large, quoi, on va dire.
Et on sent effectivement toutes ces influences qui se sont mélangées sur ce disque d'un bout à l'autre, Philippe Cohen-Solal. Alors, il y a toujours trois mots auxquels on pense quand on écoute ce genre d'album. C'est le mot fusion, c'est le mot métissage, et puis c'est le mot créolisation, hein, le mot d'Edouard Glissant, le poète et philosophe martiniquais. De ces trois mots-là, lequel vous semble le mieux décrire votre façon de travailler ?
Métissage, je dirais. Métissage. Je suis pas très fan du mot fusion, en fait. Je sais pas, parce que c'est toujours associé à Fusion World, et c'est un peu un fourre-tout, c'est un mot un peu fourre-tout, j'ai l'impression, en tout cas quand on définit la musique. Puis je suis pas très fan de la cuisine fusion non plus, où on mélange la cuisine japonaise avec la cuisine péruvienne. Enfin, pourquoi pas ? Je suis pas contre le principe, mais je préfère le métissage. D'abord, par exemple, les enfants métis sont toujours très beaux, et donc et la musique métisse, voilà, c'est dans le métissage, il y a le tissage aussi, et il y a l'artisanat presque dans le mot. Donc, je préfère ce mot-là.
On parlait tout à l'heure du vivre ensemble, de cette façon à la fois donc de se mélanger tout en respectant les différences des autres, et le métissage c'est aussi ça précisément. Philippe Cohen-Solal, est-ce que vous pensez que dans la France d'aujourd'hui, dans cette France où la montée des idées d'extrême droite n'arrête pas, est-ce que vous pensez que ce vivre ensemble a encore de beaux jours devant lui, ou qu'il y a de quoi s'inquiéter ?
Les deux, je dirais. Il y a de quoi s'inquiéter, parce que là particulièrement on est dans une période qui est vraiment difficile, où tout le monde se radicalise, tout le monde, c'est comme s'il fallait choisir son camp tout le temps, qu'il y a les bons et les méchants, alors que c'est beaucoup, beaucoup plus complexe, tout est beaucoup plus complexe que ça. Et que l'extrême droite, en l'occurrence, par exemple, profite beaucoup de ce genre de période pour pouvoir donner soi-disant des solutions. Aux gens en disant, mais vous allez voir, maintenant on va prendre ça, c'est votre problème. Vous voyez, le problème, on vous le montre, il est là. Regardez, ça, c'est lui le problème.
Le bouc émissaire.
C'est le bouc émissaire. C'est toujours l'autre, de toute façon. Et parce que les problèmes ne viennent jamais de soi-même, évidemment, ce serait trop simple. Donc c'est toujours l'autre, c'est beaucoup plus facile. Et donc l'autre, ça va être notre bouc émissaire, qu'il soit l'étranger, quel qu'il soit, le juif, moi je suis juif, donc je suis très très, et donc il y a ce truc, et comme s'il fallait choisir son camp, et l'extrême droite dans tous les pays qui progressent, et c'est là où c'est vachement inquiétant, c'est que en Europe, mais partout, elle progresse, et dans des pays, ma compagne est suédoise, même en Suède l'extrême droite est arrivée au pouvoir, et ça c'est incroyable. Donc ça, et surtout l'extrême droite qui, soi-disant, va nous donner des solutions, en fait, ça empire les choses, en fait. On voit que ils sont complètement incompétents, en réalité. On voit que ce soit même en Israël, l'extrême droite est complètement incompétente. Ils ont vraiment tout foiré, quoi. Et pareil du côté palestinien, si on parle de ça, parce que c'est aussi le Hamas, c'est l'extrême droite, c'est ça. Et donc les peuples aujourd'hui sont pris en otage par le populisme, par par le fascisme, on va dire, c'est un mot italien, mais c'est par le fascisme. Et tout le monde est pris en otage, et c'est là-dessus qu'il faut vraiment, évidemment, lutter.
Et la musique est un moyen de lutter, pas forcément un antidote, mais peut...
Disons que ça, je ne sais pas si ça a beaucoup, si ça peut vraiment, je ne pense pas que ça peut solutionner les choses, mais ça ne les empire pas. Et je pense que c'est au contraire les musiciens. Moi, je sais, je suis pas politicien, donc je fais de la musique, voilà. Et je tiens à ce que le message musical que je vais transmettre ne se ferme pas, ne prenne pas de position de façon brute. C'est trop compliqué. Tout est compliqué. C'est-à-dire, là, je parlais tout à l'heure du conflit moyen-oriental. C'est trop compliqué pour décider, pour se dire, lui, c'est un gentil, là, c'est des méchants. C'est beaucoup trop compliqué. Il y a beaucoup d'ignorance et les gens ne savent pas exactement les tenants, les aboutissants de ce conflit. Donc, je pense, en tant que musicien, moi, j'essaye pas non plus de faire de la politique quand je fais de la musique, bien sûr, mais de faire des métissages, déjà, de faire des rencontres, c'est un peu... C'est de la politique de la façon originelle, on va dire, par rapport à la ville. La vie de la cité. Voilà. Et donc, cet album, c'est la vie de la cité aussi. Et c'est ça où, effectivement, j'essaye peut-être de faire quelque chose sans avoir non plus l'espoir d'amener des solutions. Hein. J'ai pas cette prétention. Cette prétention non plus.
Voilà, l'album s'appelle donc 75-010. Il est disponible chez Yabasta. Merci beaucoup, Philippe Consolal, d'être venu.
Merci
et je précise que vous serez en concert demain, 28 mars. À la résidence d'Éric Collet, qu'on a évoqué à de multiples reprises depuis le début de cette émission.
Avec plein d'artistes qui sont sur l'album, donc c'est dans la chapelle d'Éric Collet, donc vous êtes les bienvenus.
Merci beaucoup.
Elle m'a dit dans son royaume, je suis validé. Elle veut aussi une descendance, une stabilité. Elle me dit pour avoir la clé, il faut me doter. Mais je m'en fiche, je veux explorer ton palais secret. Dis-moi encore. N'allez lier, dis-moi encore. Dis-moi encore. N'allez lier, dis-moi.
Stone Warley featuring BM dans VMDN, un morceau qui figure dans la playlist RFI de ce mois de mars. Dans un instant, le journal en français facile, à demain avec le dessinateur et scénariste de bande dessinée Simon Lamouret pour son album L'Homme Miroir chez Sarbacane, et vous m'en direz des nouvelles.